Bonjour mes chers amis gourmets, gourmettes de ce monde que vous êtes. Mon Dieu, merci d'être toujours présent et fidèle à ce rendez-vous hebdomadaire. Philippe Allais au microphone, accompagné de Monsieur Bruno Guggenminetti, qui est notre réalisateur chouchou. Alors, nous sommes là pour la 95e émission. On approche de 100 ans, mais oui, que voulez-vous, c'est ça aujourd'hui. C'est ça les vieux, hein, ça vit longtemps. Bon, écoutez-moi, j'ai plein de choses à vous raconter. Vous savez que mon rôle est un peu un rôle de communicateur alimentaire, donc de voir un peu tout ce qui se passe et à travers notre cher pays, notre cher Québec, mais aussi le Canada, puis aussi le reste du monde. Donc, de vous donner un peu ces tendances alimentaires mondiales. On se pose des questions aujourd'hui un peu partout dans le monde sur plein de choses, évidemment, vous le savez, c'est pas drôle. Les gens se posent énormément de questions sur tout ce qui se passe. Et on revient un peu à nos moutons quand on parle d'alimentation. C'est une chose cruciale et je dirais nécessaire pour qu'on puisse avoir aussi un certain plaisir. Alors, ce plaisir, on ne va pas l'occulter, on va le garder, au contraire, on va même le développer. Et je vais vous parler aujourd'hui de potager personnel, mais vous allez voir un peu plus un potager qui vous permet dans des zones très restreintes de pouvoir avoir quelques produits, puis qui est un peu une alternative à la vie chère. Parce que honnêtement, là, je fais le tour, moi aussi, je fais le tour comme vous, des magasins, des supermarchés, des marchés même qui commencent à ouvrir tranquillement. Et je vois les prix, je vois la diminution des emballages, je vois les prix qui augmentent. Et on a beau me dire non, 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 ben oui, c'est pas non, 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 c'est oui. Que ce soit des très grandes surfaces ou des surfaces modérées. Il y a bien des produits. Cette semaine, je regardais les cornichons. Là, c'est un produit un peu banal dans le fond, là, qui pense à des cornichons. Je voyais le prix 8,99. J'ai dit, mon Dieu, ça se peut pas. Alors, évidemment, on va devoir faire des choix tous parce que le train de vie ne suit pas et on ne peut pas se payer la traite. Et je sais qu'aujourd'hui, la restauration en arrache beaucoup compte tenu justement de tout ça. C'est pas tout le monde qui peut aller au restaurant dépenser 200$ par jour, là, 200$ dans une journée. Alors, on va essayer de trouver des alternatives et qui vont vous permettre de bien vivre et d'avoir du plaisir. Et donc, je vais commencer cette émission, cette 95e émission, donc ce 23 du mois d'avril, où il fait encore pas très chaud, mesdames et messieurs, pas très chaud. Et il a gelé cette nuit chez moi, en tout cas. Et on va essayer de penser à un potager alternatif. Alors, moi, j'ai choisi pour ça, et je tiens conseil de mon ami Jean-Claude Vigor, qui était un grand jardinier qui a travaillé avec Pierre Bourque au Jardin botanique et puis qui a longtemps donné des conseils à Radio-Canada, maintenant bien remplacé par Martella Verdière qui prend le relais, qui est la star du moment. Mais ce Jean-Claude Vigor me disait, et il l'a fait lui-même, c'était de faire un potager sur sa galerie, chez soi, dans des seaux, des grands seaux, ou des bacs, si vous voulez, de 15-20 litres, là, ce qu'on trouve dans le commerce à acheter, en plastique, d'y faire des petits trous en dessous, donc au fond, pour pouvoir permettre un écoulement. Et dans ces bacs, vous allez constituer un mélange, c'est-à-dire au fond, vous allez mettre un peu de gravel, du gravier que vous achetez dans des centres de jardin. Ensuite, vous allez mettre un pigmos ou sur de la tourbe ou quelque chose comme ça. Et puis, vous complétez avec de la terre et un peu d'engrais mélangé à la terre. Bon, là, vous avez votre base dans un seau qui est préparé. Et quand je dis ça, c'est on ne peut pas tout faire dans un balcon. Un balcon, on ne peut pas tout planter. Il faut pas. Il y a des choses d'abord qui. Moi, il y a longtemps que j'ai réglé le problème, même si j'ai de la place pour faire un jardin. Il y a des produits que je ne plante plus. Pour la simple et bonne raison, c'est que vous allez les retrouver en abondance au marché Jean Talon ou dans n'importe quel marché de la province ou ailleurs, à moindre coût. Donc, ça ne vaut pas la peine de s'embêter à faire des oignons, alors qu'il y a d'excellentes variétés aujourd'hui, même des variétés un peu ethniques, hein, qu'on peut retrouver dans les marchés publics. Alors, moi, j'y vais un peu par choix personnel. Donc, je vais... J'adore la salade. Et la salade qu'on fait maison, ça n'a rien à voir avec la salade qu'on va acheter, parce qu'on sait qu'il n'y a pas de pesticides, on sait qu'il n'y a pas tout ça. La salade, ça se plante en graines, ça se sème, en fait, et où vous pouvez les acheter déjà en petits plans directement, donc dans des marchés publics ou chez les magasins spécialisés, les botanistes de ce monde et ainsi de suite. Donc vous allez planter vos salades et vous allez les mettre donc en rotation dans vos grandes chaudières et vous allez voir que ça pousse très très vite. Donc il faut, quand vous commencez à manger de la salade, il faut replanter parce que ce que font les gens, comme j'ai fait très longtemps, c'est que j'achetais des plants de salade, je les plantais, puis pouf, tout d'un coup j'en avais plus. Donc, j'avais un espèce de vide, alors que je me suis rendu compte qu'en ayant 2-3 chaudières de salade, on pouvait très, très bien continuer en les plantant tous les 15 jours, tous les 3 semaines. Il faut à peu près 5-6 semaines pour faire pousser une salade correctement, donc c'est pas si long. Alors, les salades, c'est d'accord. Ensuite, je mets des fines herbes parce que j'adore le basilic, j'adore la ciboulette, l'estragon, le persil parce que c'est un utilitaire. Donc, je fais mes bacs de fines herbes et que des fines herbes dedans. Donc, dans le bas, alors on a les salades d'un côté, les fines herbes de l'autre. Et puis, les derniers que je fais, ben, c'est des tomates. Parce que la tomate, c'est la tomate. Et puis, la tomate, c'est un fruit légume. Donc, on va dire un fruit parce que c'est un fruit. Mais c'est un fruit légume pour bien des gens. Qui est absolument exceptionnel et merveilleux. Et il y a tellement de variétés de tomates sur le marché aujourd'hui. Il n'y a rien de mieux là, que de manger une bonne tomate mûrie chez soi. Puis ça sent l'été avec un filet d'huile d'olive, un peu de fleur de sel. Pour moi, c'est le paradis. Alors, voilà ce que je fais comme potager. Après, si bon vous semble, vous arrivez, vous dites, bon, la salade, j'en veux plus. Bah, les pommes de terre, ça va être très long. Puis ça pousse bien, hein. Ça pousse très très bien. Moi, j'étais surpris quand Jean-Claude Vigor me montrait justement dans ses grands sous là, les quantités de pommes de terre qu'il récupérait. J'étais un peu estomaqué parce que je m'embêtais moi à faire des plates-bandes inimaginables qui étaient souvent attaquées par toutes sortes de bibites. Alors que là, on a un contrôle. Vous avez un contrôle parce que vous mettez ça près de chez vous, vous les arrosez quand il y en a besoin et vous avez donc un contrôle beaucoup plus que dans un jardin où il y a toutes sortes d'insectes. Moi, je suis dans la forêt, donc en commun des insectes, j'ai tous les petits amis qui viennent goûter tranquillement à mes légumes et puis en fait, qui m'en laissent très peu. Donc finalement, c'est un peu une belle solution là d'avoir trouvé ça. Alors, je vous dirais que non seulement c'est le plaisir de ramasser nos récoltes personnelles, et puis n'allez pas dans des choses trop envahissantes. Vous pouvez faire un peu de concombre si vous voulez, oui, parce que ça grimpe. Hein. L'avantage avec les tomates puis les concombres, c'est que vous pouvez les faire grimper sur des tuteurs. Puis là, évidemment, ça prend moins de place, donc c'est vraiment intéressant. Alors voilà pour ce qui est de notre jardin alternatif, je dirais, notre petit potager maison, et vous allez voir que ça vous donne bien du plaisir. Maintenant, j'aborde un sujet qui me tracasse, qui m'inquiète, et en même temps, je me pose plein de questions par rapport à cette nouvelle génération de la restauration. Moi, j'ai connu un peu, peut-être à défaut, la rigueur professionnelle de ce qu'on appelle l'uniforme, et d'avoir aujourd'hui, de voir un peu ce que je vois aujourd'hui dans les cuisines et dans les écoles hôtelières, parce qu'il n'y a plus de formation comme telle. Je me suis dit, pourquoi la restauration n'intéresse plus aujourd'hui une certaine génération? En cherchant le pourquoi du pourquoi, on arrive à certaines réponses, non pas des solutions, mais des réponses. Et la première réponse, c'est que la restauration est un handicap dans la vie personnelle, dans la vie privée de bien des gens. Bon, pourquoi? Parce que la restauration, c'est un métier où vous travaillez quand les autres sont en congé. Donc, vous travaillez le soir, vous travaillez les dimanches, les fins de semaine, vous travaillez la fête des mères, vous travaillez à Noël, vous travaillez à Pâques et toutes ces fêtes-là. Évidemment, ça ne convient pas à tout le monde, surtout si vous êtes un couple et que dans le couple, il y a quelqu'un qui a des horaires, je vous dirais, un peu plus agréables. Alors, c'est un handicap. Donc, on voit qu'aujourd'hui, chez une catégorie spécifique de jeunes, la restauration a beaucoup de difficultés. Ça marche encore, mais c'est de plus en plus difficile de recruter des jeunes qui ont cette vocation. Et je dis vocation parce que si vous n'avez pas la vocation, le feu sacré de pouvoir faire ça, ben, ça ne marchera pas. Par contre, ce qu'on voit, c'est un retour de personnes universitaires ou des gens qui ont certains diplômes qui, à un moment donné, vont choisir la restauration par choix. On parle de 20, 21 ans, 25 ans. Donc, ce sont des gens qui ont eu un métier, pas nécessairement relié à la restauration, mais qui vont retourner par plaisir parce qu'ils aiment faire à manger. Et on le voit autant dans la boulangerie, pâtisserie, des gens qui ont 20, 25 ans, qui prennent des cours et puis qui se lancent dans ces métiers-là. Donc, c'est une autre approche qu'on a dans la restauration d'aujourd'hui. Maintenant, je me suis posé la question parce que je regarde un peu ce qui se passe. Imaginez-vous, vous visitez un camp militaire et là, vous voyez des militaires avec des jeans troués, avec des t-shirts bariolés, des inscriptions nazies, avec la casquette à l'arrière et des tatous avec des boucles d'oreilles. Je ne sais pas quelle serait votre réaction, mais cette réaction, on pourrait dire, ben non, soyons de notre temps, c'est comme ça aujourd'hui. Alors ça passerait pas au niveau des militaires. Par contre, au niveau de la restauration, je dirais qu'il y a des uniformes qui étaient précis, prévus au niveau de la loi, qui sont le pantalon carotté ou le pantalon propre, noir, avec une veste blanche immaculée. Et bon, je passerai la parade des tours de cou, tout ce qu'on mettait, et une toque qui, en général, était le chapeau de préservation pour éviter qu'il y ait des cheveux dans la soupe. Ben maintenant, ça marche plus comme ça, mes chers amis. C'est que si vous imposez même dans votre restaurant à des jeunes d'avoir une veste blanche pour vous dire, moi, je ne reste pas travailler chez vous. Parce que moi, je travaille en t-shirt, la casquette en arrière, puis just too bad, tu me prends avec tes boucles d'oreilles dans le nez, dans les oreilles, si tu n'es pas content, c'est juste comme ça. C'est comme ça que ça marche. Alors, et je me suis posé cette question, je me suis dit, est-ce qu'on irait à l'hôpital et on verrait un médecin en t-shirt, casquette à l'arrière, avec des boucles d'oreilles dans le nez, est-ce qu'on aurait confiance? Je ne le sais pas. Et je me suis dit, pourquoi on est arrivé à ça au niveau de la restauration? Alors, pas partout, parce que je regarde encore en certains grands restaurants en Europe, les propriétaires, qui sont souvent des chefs, exigent de leurs employés que ça soit comme ça. Et la question ne se posera même pas en Asie, hein, parce qu'en Asie, il y a un respect total pour la hiérarchie, il y a un respect pour le métier, donc la question elle ne se pose même pas. Mais au Canada, au Québec, je ne sais pas si l'erreur vient des écoles hôtelières qui ne sont pas assez, comment dirais-je, assez restrictives sur le choix des habillements et qui ne imposent pas ces habillements et qu'on n'indique pas aux élèves. Eh bien, moi, je suis sceptique là sur le futur parce que c'est un manque de respect tant qu'à moi. Voilà, ceci dit, on passe à autre chose. Les fruits en attente. Là, on est dans la période la plus difficile parce que lorsque vous voulez acheter des fruits et légumes, les nouveaux fruits et légumes, bon, les légumes, ça commence tranquillement avec ceux qui ont été sous serre, là. Les épinards, on commence à voir des choses un peu arriver, les têtes de violon qui arrivent aussi, les crosses de fougère, donc on appelle aussi la tête de violon, là, qui vient de la vallée de la Matapédia en partie, mais on peut voir d'ailleurs, commence tranquillement. Les fruits, c'est plus délicat parce qu'on est dans une période entre les deux. Ça veut dire qu'on n'est pas encore rendu dans le printemps des fruits avec les fraises, les framboises, les cerises, les pêches, quand même qu'elles viennent d'ailleurs, on n'est pas encore là. Donc on a cette attente où on voit dans les grands magasins des restes d'oranges et de clémentines, parce que les clémentines, c'est la fin là, au niveau du Maroc. Là, vous allez voir, il y a une peau épaisse, d'ailleurs fibreuse, c'est quand même pas mal la fin. Les oranges, qu'elles viennent d'Espagne, c'est aussi un peu la fin, on en trouve encore, parce que de toute façon, les oranges, on trouve toute l'année, c'est comme les bananes, hein. Vous allez trouver ça toute l'année. Il y a évidemment les pommes qui se gardent très longtemps maintenant, donc en basse température. Vous posez des questions, comment ça se fait qu'on est capable d'avoir des pommes puis des poires là? Ben, c'est parce qu'on les conserve à 1 degré. Donc en bas du gel à peine, là. Donc la progression est très 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 lente et elles sont cueillies en général, je vous dirais, à peine mûres, ce qui est un défaut en même temps au niveau qualitatif, là. Donc après, quand vous achetez des poires, ce qui est mon cas hier, j'ai acheté des poires qui venaient du Portugal dans une petite cagette, évidemment pas très chère, mais elles ne sont pas mûres, donc il faut les laisser mûrir. Le problème, c'est qu'il y en a 24 qui vont mûrir en même temps. Donc, bon appétit. Alors, dans ce temps-là, ce que vous faites, vous pouvez faire des poires au sirop que vous allez conserver dans un sirop. C'est une façon de vous en sortir. Donc, les fruits. Il y a évidemment des pamplemousses. On va trouver des agrumes encore, bien sûr. Vous allez trouver des ananas en ce moment sur le marché. Vous allez trouver des mangues. Les mangues, c'est la bonne saison en ce moment pour acheter les mangues. Parce qu'elles viennent soit du Brésil, soit un peu du Mexique, ou encore d'ailleurs. Mais les mangues, c'est une bonne saison pour en trouver. Vous allez trouver des kiwis parce qu'il y en a tout le temps. Donc, c'est un peu. Puis des raisins que moi, je ne conseille pas parce que c'est souvent. Les raisins, là, c'est le pire au niveau des pesticides. Et ça, lavez-les à plusieurs reprises parce que c'est dramatique. Vous allez vous retrouver avec des pesticides dans l'assiette. Puis les gens, quand je vois les enfants qui prennent des raisins, qui ne sont pas lavés, qui les mangent comme ça, je me dis, oh mon Dieu, est-ce que les parents sont conscients quelquefois? En tout cas. Bon, alors, ceci étant dit, vous savez que vous êtes dans une attente de 15 jours à peu près, 3 semaines. Et puis que là, les beaux jours vont arriver à un moment donné, puis qu'on va retrouver ah, les fraises, ah, les framboises, les belles villageoises, eh bien, nous ne les reverrons plus. Sur ce, mes chers amis, je vous souhaite un bon appétit, une belle journée, puis profitez de, ben, même si c'était hier, la journée de la Terre, pour moi, la journée de la Terre, elle continue encore aujourd'hui. On a de la chance d'avoir cette belle Terre qui nous nourrit. Allez, je vous embrasse, passez une belle semaine, puis on se retrouve avec impatience la semaine prochaine. Bye bye!